Bienvenue à vous, bravo et merci Bernard Minier, considéré comme l'un des maîtres du thriller. Bernard Minier, biterrois de naissance, enregistré en public au festival Le Livre à Metz. Bravo et merci Bernard Minier, seconde partie qui débute avec la mise au jour ou publication du premier roman, Glacé, en 2011, chez Ixo Éditions. Ixo, l'éditeur de ces 10 romans vendus à 5 millions d'exemplaires, de Glacé à Luthia, publié au printemps 2022.
Bravo et merci.
Thierry Georges.
Et un jour, donc, une rencontre qui va être déterminante, sachant que vous aviez écrit, vous étiez testé un peu dans l'écriture du polar de thriller, et il y avait 60 pages de Glacé, vous les faites lire. C'est là où toute votre vie va changer, finalement, Bernard Minier. Hein.
Oui, en fait, grâce à un concours de nouvelles, c'était à Maison Lafitte.
Qui devient un concours de circonstances.
Oui, c'est ça, exactement. Et heureux concours de circonstances. À Maison Lafitte, il y avait un prix qui s'appelait le prix Pégase. Alors, ce n'est pas du turf. Et ça se passait. Et on nous remettait le prix au château Maison Lafitte. C'était le député maire de Jacques Myard de Maison Lafitte qui organisait ça. Et j'avais le deuxième prix. Et un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Chambert avait le premier. Et donc, on s'est retrouvé à écouter, je ne sais plus quel morceau d'opéra. On était au premier rang. Et on a sympathisé. Comme une plaquette était publiée chaque année avec les trois premiers, et il a lu mon texte, il a beaucoup aimé, donc il m'a appelé et on a commencé à parler polar parce qu'il avait fait une thèse sur Thierry Jonquet et on a dit on va écrire un roman policier ensemble puisque on est assez doués tous les deux. Et j'avais 60 pages au fond d'un tiroir qui étaient les 60 premières pages de Glacé qui étaient dans un tiroir que j'avais abandonné parce que je trouvais que c'était pas assez bon en fait. Je trouvais que c'était pas terrible.
Depuis enfin, plusieurs années.
Et c'était le texte tel qu'il a été publié quasiment les 60 premières pages. Je me dis ah, c'est pas mal, mais on peut mieux faire. Donc j'avais laissé ça au fond d'un tiroir, et j'ai fait lire ça, ces 60 premières pages de Jean-Pierre. Il me dit, mais t'es fou, c'est vachement bien. Pourquoi tu veux qu'on cherche mieux? C'est parfait. Et puis en plus, il me dit, puis t'as pas besoin de moi pour l'écrire, tu peux le faire tout seul, la preuve. Donc du coup, je me suis remis à écrire, j'ai repris ces 60 pages, j'ai continué les 250 premières, je l'ai lui envoyé, ensuite j'ai envoyé le roman complet. C'est lui qui m'a convaincu d'envoyer le manuscrit de Glacé à 5 maisons d'édition par la poste, avec 6 euros de timbre, parce que je connaissais absolument personne, hein, pas de relation. Et sur les 5 maisons d'édition, il y en a 4 qui m'ont contacté, dont la première qui est très connue, mais qui n'est pas mon éditeur actuel, au bout de 3 semaines. Parce qu'en fait, j'avais juste mis mon nom, mon numéro de téléphone, et un petit résumé, le texte, et mon adresse mail, et donc, j'étais aux douanes, je travaillais, et tout d'un coup, j'avais donné le téléphone des douanes, en fait, pas celui de mon téléphone personnel. Tout d'un coup, le téléphone sonne, et c'était une grande maison d'édition qui me dit « Mais qui vous êtes ?» Voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
Effectivement, et puis bon, le succès est arrivé très très vite finalement avec Glacé, mais vous aviez aussi, quand vous avez écrit la suite des 60 premières pages, mais avez-vous découvert, Bernard Minier, que vous aviez une aisance finalement dans l'écriture du thriller, parce que vous n'aviez pas appris, c'était votre premier, vous n'aviez pas de métier dans ce genre-là.
Et après, j'avais déjà une aisance dans l'écriture, ça je le savais, j'écris depuis très longtemps, avec les concours de
nouvelles. Il y a des ressorts quand même.
Mais, oui, alors quand j'ai décidé d'écrire un thriller, comme un exercice de style, comme une. Voilà, c'était un peu un jeu, en quelque sorte. J'en ai quand même lu quelques-uns avant pour comprendre un peu la mécanique, comment ça fonctionnait. J'ai lu quelques Conley, quelques Granger, quelques Mankell, etc. Et puis, une fois que j'ai compris à peu près comment piger à peu près comment ça marchait, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai compris. J'ai quelques ficelles, quelques ressorts, quelques techniques. Je vais faire tout ça, mais à ma sauce. C'est-à-dire, c'est Elroy qui disait, je respecte scrupuleusement les codes du genre, mais j'essaie d'y mettre quelques petites choses en plus. Bon, ben voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai respecté les codes du genre, mais en y mettant des choses à moi, en me créant, je voulais me créer une voix, aussi bien une voix du point de vue du style de l'écriture qu'une voix, un univers, en fait. Voilà, donc je me suis efforcé à créer un univers et je me suis posé la question, qu'est-ce qui te caractérise au fond? Qu'est-ce que toi, tu aimes lire? Parce qu'en fond, c'est ce que je voulais faire, écrire le genre de polar ou de thriller que moi-même, j'aurais aimé lire. Qu'est-ce que tu as? Et je me suis dit, l'importance du décor, de l'atmosphère. Moi, j'aime les livres avec une atmosphère où il y a une atmosphère très forte, un climat, un décor, etc. Et c'est ce que j'ai fait finalement avec Glacé.
Et vous étiez déjà très minutieux, parce que vous êtes très minutieux dans votre écriture. Enfin, vraiment, dans un souci quand même du détail très, très pointilleux.
Hein. Parce que les détails sont importants. C'est les détails qui font la différence. C'est les petits détails qui comptent. Nabokov disait, un livre, c'est d'abord fait de détails. Il n'y a rien de plus fâcheux que de commencer un livre. Par exemple, il disait, il n'y a rien de plus fâcheux que de commencer à lire Madame Bovary avec l'idée préconçue que c'est une dénonciation de la bourgeoisie. C'est s'éloigner du livre avant même d'avoir commencé à le comprendre. Il disait, savourez d'abord les détails. Savourez les détails et ensuite vous occuperez des idées générales. Et effectivement, le livre, c'est d'abord des détails.
Inédit sur M6.
Capitaine Servaz ?
Ouais.
Je suis le capitaine Ziegler, je commande la brigade de recherche de Saint-Martin.
On m'a fait clairement comprendre qu'on voulait sur l'enquête.
Pour un cheval ?
Non, à cause du propriétaire. C'est un des plus gros industriels de la région.
Je t'appelle Cathy, je veux pas traîner par ici.
Paris nous affirme de la situation.
On a trouvé ça dans la flaque de sang.
Un cheveu?
Peut-être.
Mais c'est énorme, ça.
Ça fait 10 ans qu'il est enfermé. Grâce à toi.
Il a fallu qu'il en tue 6 avant que je comprenne.
Birkman a trompé tout le monde, hein, pas seulement toi.
Le cheveu qu'on a retrouvé près de la tête du cheval, il appartient à Birkman.
Cette nuit, dans un rayon de 10 km, un coupable va être puni.
Tu vas pas me dire qui?
Ah ben non, c'est toi l'enquêteur.
Glacé, la série événement, mardi à 21h sur M6.
Pourquoi Martin Servaz s'appelle-t-il Martin Servaz?
Bonne question. Je voulais un nom en 2 syllabes, je voulais un nom assez court. Et au départ, j'en ai essayé plein. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais quelle est sa fonction? Alors, Martin, parce que c'est un prénom universel, ça fonctionne dans toutes les langues.
En anglais, Martin.
Déjà, j'avais quand même pensé
vous pensiez déjà aux traductions.
À l'éventualité que je pouvais être traduit. Quand même.
Ah ouais.
Parce que je me suis dit, ça fonctionne en anglais, ça fonctionne en espagnol, ça fonctionne en allemand. Ça fonctionne
Martin.
Partout. Ouais, c'est ça. Et donc, et Servaz, je me suis dit, j'ai eu beaucoup de mal avec le nom. J'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Je voulais un nom qu'on retienne facilement. Et je me suis dit, quelle est sa fonction principale à Martin? C'est de servir. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui se dévoue complètement à son métier. Ça aurait pu être Servat, mais Servat, à l'époque, à Toulouse, c'était quand même, il y avait quand même un gros joueur de rugby bien connu. C'était quand même un peu lourd à porter, donc j'ai enlevé le T, j'ai mis un Z, Servaz.
Et donc, succès immédiat pour Glacé. Une communauté vraiment de lecteurs se constitue qui vous est fidèle de roman en roman.
Et qui grossit de roman en roman.
Ah oui, c'est en plus. Il n'y a pas un seul dans les 10 romans. Aucun n'a vécu un échec. Aucun.
Non, il n'y a pas eu d'échec.
Pas d'échec.
Après, il y en a qui sont un peu moins.
Enfin, 10 romans, les 9, parce que le 10e sort.
Ouais, rencontrer un peu moins de lecteurs. Un de ceux qui a le moins marché ces dernières années, c'est M. Le bord de l'abîme. Parce que c'est un sujet un peu plus austère.
Ça a déboussolé.
L'intelligence artificielle, ça se passe à Hong Kong, c'est de l'intelligence artificielle, c'est plus un techno-thriller, il y a beaucoup de techniques dedans, donc celui-là a eu une réception un petit peu moindre. Bah, il y a plein d'auteurs qui s'en contenteraient.
Mais c'est bon, pas dû au fait qu'il n'y ait pas Servaz.
Non.
C'est la tête d'affiche quand même.
Oui, mais en même temps, j'ai été surpris justement dernièrement, parce que mon éditeur, à l'occasion de Lucia, a sorti une plaquette pour les journalistes où ils ont repris en fait tous les chiffres GFK depuis Glacé, de mes livres, et je pensais qu'effectivement c'était les Servaz qui étaient devant systématiquement, et une putain d'histoire et M. Le bord de l'abîme derrière. En fait, après Glacé, mais Glacé c'est parce qu'il est là depuis longtemps, donc comme il continue, le fond continue à tourner, effectivement chaque année le chiffre grossit. En deuxième position après Glacé, mon roman le plus lu, c'est Une putain d'histoire. Donc comme quoi...
Et parmi vos lecteurs de Glacé, alors je ne sais pas si ça a été glaçant pour vous, mais il y a cette photo où l'on voit Xavier Dupont de Ligonnès avec Glacé.
Oui, c'est une anecdote qui est connue, mais enfin bon, je suis pas assez, c'est pas celle dont je suis le plus fan. Oui, effectivement, la dernière fois, on voit Xavier Dupont de Ligonnès sortir dans son hôtel à Roquebrune-sur-Argent. Il sort de sa chambre d'hôtel, il est filmé par la caméra de surveillance, qui en plus, il regarde la caméra de surveillance, et il a Glacé à la main. Ouais. Et donc, du coup, les policiers de Nantes, puisque c'est la police de Nantes qui enquêtait, les policiers de Nantes sont allés dans une librairie parce que l'image était un peu floue. Et mais en même temps, les couvertures bleues, tu vois, on les reconnaissait, mes couvertures. Enfin, à l'époque, il y avait que celle-là, c'était mon premier roman. Et donc, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ce roman, ce bouquin-là? Est-ce que vous reconnaissez le bouquin qui est sur la... Et le libraire a dit, ça, c'est Glacé. Voilà. Et donc, ils ont acheté 10 exemplaires de Glacé, ils ont commencé à éplucher pour voir s'ils trouvaient des pistes. Non, c'est vrai. Et après, moi, j'ai été appelé par un journaliste, mais bon, c'est pas mon fait de gloire préféré.
Attends, j'en ai une autre, hein, mais sans transition. Il y a vraiment, c'est sans transition. J'ai lu qu'une lectrice de vos romans, Bernard, en découvrant votre photo, forcément, vous la connaissez, en 4e de couverture de Nuit, a eu ce mot. Ça alors, votre photo, donc en découvrant, a dit ça alors. C'est comme ça que j'imaginais Hirtman, Julian Hirtman, le tueur en série psychopathe, avec votre photo.
Je lui laisse l'entière responsabilité de ça. De son jugement.
Mais
laisse-moi me rattraper un petit peu. Pour compenser, tu peux aller voir sur mon stade, il y a plein de gens qui me disent j'imaginais Servaz comme vous. Donc voilà, ça compense. Peut-être que finalement, ils se ressemblent tous les deux, je ne sais pas.
Vous avez eu un avaloir, vous êtes mis en dispo, et là, vous vous êtes dit que vous n'aviez plus de temps à perdre. Le rythme, est-ce votre éditeur, Bernard Fixeau, qui vous impose de publier un roman par an?
Non, non,
c'est vous-même qui vous donnez ce...
Ouais, c'est pas que je me donne, c'est que j'écris un roman par an parce que c'est un rythme qui me convient, parce que j'aime pas les vacances, déjà. Donc je suis déjà en train de... Alors là, d'ailleurs, je suis content d'aller voir les lecteurs, mais moi, j'attends qu'une chose, c'est de rentrer chez moi pour me remettre à... Alors en ce moment, je suis juste en train de poser des idées dans une espèce de fichier fourre-tout où je balance... C'est comme un fichier du tout venant, comme un gros sac, ce fichier, où je balance tout ce qui me vient à l'esprit, et après, je fais le tri. Et là, c'est une période très excitante, parce que j'ai plein d'idées, ça, c'est pas ce qui manque. Alors, il y en a plein qui ne seront pas conservés, qui seront rejetés, mais j'aime bien cette période-là où tout, tout est en ébullition, ça fuse de partout, je note plein de trucs, j'adore faire ça. Donc, non, moi,
j'écris tous les jours. Hein.
J'écris 7 jours sur
7, ouais. Plutôt, plutôt diurne.
Oui, j'écris le jour, j'écris jamais la nuit. Je suis incapable de faire ça. Je sais qu'il y a des auteurs, j'en connais, qui écrivent très bien la nuit. Je me rappelle avoir été dans un festival avec un ami et excellent auteur qui est Jean-Luc Bizien, et on était en sortie au restaurant, après on a été dans des bars, etc., on a traîné, et à 1h du matin on rentre à l'hôtel, moi j'étais épuisé, et lui il me dit bon allez, je vais m'y mettre. Je lui dis tu vas te mettre à quoi? Et je sais que c'est vrai. Il me dit bah, il faut que j'ai un texte à terminer pour demain matin, et il a dû travailler jusqu'à 3h du mat, quoi. Et moi je suis incapable de faire un truc pareil, c'est pas possible.
Sinon, vous écrivez 7 jours sur 7.
Ouais,
les jours de Noël, les jours fériés aussi.
Ah ben, tu connais l'histoire de Stephen King. Stephen King disait toujours à ses lecteurs, c'est lui-même qui la raconte dans un je ne sais plus quel livre, je dis à mes lecteurs que j'écris tous les jours que Dieu fait, sauf le jour de Noël et le jour de mon anniversaire. Et en vérité, je leur dis ça pour ne pas les effrayer, parce que j'écris aussi le jour de Noël et le jour de mon anniversaire.
Et dans le TGV, en rentrant à Paris tout à l'heure?
Je ne travaille jamais dans les trains ni dans les hôtels.
Jamais dans
moi.
Les trains.
Uniquement chez moi. Il me faut le silence le plus absolu. Alors après, chaque auteur est différent. Moi, je connais plein d'auteurs qui travaillent dans le train avec leur petit ordinateur portable. Moi, je ne sais pas faire ça. Non, pas du tout.
Et j'ai lu un article à propos de votre maison à Montfort-l'Amaury qui dit qu'elle fait penser à un cabinet de curiosité. Pourquoi cela?
Parce que ça fait penser à un cabinet de curiosité.
En quoi? Il y a quoi?
Il y a tout. Il y a des crânes, déjà. Il y a toutes sortes de crânes. Il y a des tableaux, il y a des tapisseries du XVIIIe siècle, il y a des insectes sous verre, mais des gros, hein, pas des petits. Il y a des maps mondes aussi qui datent du XIXe, des choses comme ça. Il y a des masques très étranges aussi, genre les médecins au Moyen-Âge avec leurs masques pointus, là, comme ça. D'ailleurs, mon amie, quand je dors au premier étage, elle descend jamais la nuit au rez-de-chaussée. ça lui fait peur. Elle préfère prendre sa bouteille d'eau.
Et pour vous, c'est inspirant?
Ah, moi j'adore ça, c'est un décor. Mais en fait, je suis dans le décor au fond de... Puis il y a des livres, beaucoup, il y a beaucoup de livres. J'ai des livres absolument partout, c'est une vraie bibliothèque. J'ai d'ailleurs plusieurs bibliothèques en fonction du genre. J'ai une bibliothèque où il y a du polar, une bibliothèque où il y a de la SF et du fantastique, une bibliothèque où il y a de la poésie, des essais, de la philo. Enfin,
grande maison.
C'est une grande maison, et chaque fois que j'ai plus assez de place pour mes livres, je déménage. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Bravo et merci.
Thierry Georges.
Bravo et merci Bernard Minier, auteur de Thriller, seconde partie enregistrée en public au festival Le Livre à Metz.
On va parler de Lucia, qui est votre premier roman dont le titre est un prénom. Et alors, je ne sais pas si c'est un clin d'œil, page 17, vous vous êtes fait un clin d'œil, on peut lire « Elle fut glacée ».
Oui.
Et là, alors l'ouverture, bon, le prologue, c'est très important, l'ouverture, et le tableau d'ouverture est très spectaculaire, impossible que le lecteur ne soit pas happé dès l'ouverture de Lucia.
Oui, c'est quelque chose que j'aime faire, attraper le lecteur par le col dès les premières pages. Je l'ai souvent dit, lui mettre une espèce de grande gifle dans la figure, et tout d'un coup le secouer, lui dire justement attention, ça va secouer. J'aime beaucoup faire ça, j'aime beaucoup mais parce que aussi, quand moi, comme spectateur de série ou de film ou comme lecteur, j'aime quand dès les premières minutes il se passe quelque chose, quoi. On a toujours envie qu'il se passe quelque chose, et moi j'aime quand d'emblée il se passe un truc, et donc je fais ça. Oui, c'est devenu un peu une marque de fabrique, ce prologue voilà, qui est assez impactant.
Et Lucia arrive parce qu'il fallait que vous fassiez une pause avec Martin Servaz. Il fallait laisser un peu quelque temps, enfin une année donc.
Non, c'est parce que j'ai écrit deux romans avec Servaz. Les deux derniers étaient avec Servaz, c'est La Vallée et La Chasse. Mmh. Et puis là, j'avais envie de...
Il faut un break de temps en temps.
Non, mais j'avais envie d'essayer un autre personnage. Mmh. J'avais envie de... Cette Lucia, elle est venue petit à petit. Elle était dans un coin de ma tête. Et voilà, j'avais envie de la... À un moment donné, je me suis dit, c'est le bon moment pour la faire sortir du chapeau.
C'est ça. Alors, c'est pas la première fois qu'une femme tient le premier rôle dans un de vos romans, puisque c'est le cas de Moira dans M, mais c'est la première fois qu'une femme policière est tête d'affiche.
Oui, puis je pense qu'elle est quand même différente de Moira. Alors, il y avait deux personnages importants. Il y avait Moira et puis il y avait ce flic hongkongais. Ils étaient deux, dont j'ai oublié le prénom, d'ailleurs. Je ne sais plus comment il s'appelle.
Qui peut nous aider.
Mais bon, bref, ce n'est pas grave. Et là, bon, oui, elle est vraiment au centre de l'affaire. Alors, Moira, c'est une femme dans la trentaine qui est petite, qui est brune, qui a des tatouages partout, qui s'habille souvent en noir et qui est policière au service de police judiciaire de la Guardia Civile, oui, qu'on appelle la UCO, c'est-à-dire l'unité centrale opérationnelle, qui est un service qui existe, qui est basé à Madrid, de gens très spécialisés sur des enquêtes complexes, des enquêtes relevant de la police judiciaire, et qui sont, ça n'existe pas en France évidemment, qui sont projetés un peu partout en Espagne sur des scènes de crimes assez complexes. Et Lucia évidemment est assez douée dans son travail, et en même temps c'est ce que j'aimais en créant ce personnage, qu'elle arrondit pas les angles, elle triche pas, elle est vraie.
On peut dire qu'elle a un foutu caractère quand même.
Ouais, aujourd'hui je crois qu'on dit badass, c'est comme ça qu'on dit. Enfin oui, elle a un caractère bien trempé, une personnalité assez forte, et elle est en conflit. Elle est en conflit avec sa mère, elle est en conflit avec sa sœur, elle est en conflit avec son ex-mari qui a la garde de son fils. Elle est un peu en conflit avec sa hiérarchie, elle est quand même beaucoup dans le conflit, mais parce qu'elle arrondit pas les angles, parce qu'elle dit toujours ce qu'elle pense, et au fond elle est ce qu'on voudrait souvent être et qu'on peut pas toujours être dans la vraie vie.
Donc on parlait du souci du détail. Lucia, on sait qu'elle est née le 18 mars 1987, elle est née à Malaga, donc on connaît toute sa vie, enfin des éléments de sa vie avant qu'elle n'entre dans le roman finalement.
Bien sûr.
Donc elle est lieutenante effectivement, et son nom de famille, c'est pas anodin, c'est Guerrero. C'est donc une guerrière.
Elle est surnommée la guerrera, ce qui veut dire en français la guerrière. Donc en fait, tu as Lucia qui est au fond Luf, la lumière, et Guerrero, la guerrière. Voilà, c'est un peu les...
Ah oui, c'est ça. Et on sait aussi qu'elle a, aussi dans une vie avant de rencontrer Bernard Minier finalement, on sait qu'elle a arrêté un tueur en série.
Oui, qui s'appelait Francisco Manuel Meléndez, surnommé le tueur en marteau, le tueur de l'autoroute. Qui est donc un tueur qui avait l'habitude de suivre des femmes seules sur l'autoroute, de repérer des femmes seules en voiture, seules sur l'autoroute la nuit, et de les suivre et de les attaquer quand elles s'arrêtaient dans une aire d'autoroute ou sur une station service, etc. Ouais. Ouais.
Elle ne voit plus rien aux alentours. Aucun jardin, aucun immeuble. Et même si le bruit du carrefour l'empêche en rien de se sentir seul, il est ailleurs et loin de là. Il n'y a que lui qui crée le manque. Le bruit des talons que font ses pas résonne sur le gris de Salamanque. La manque.
Et Lucia, va vous faire faire à Bernard Minier un beau voyage, puisqu'elle va vous emmener à Salamanque et à Ségovie. Donc, c'est pas la banlieue, mais on est autour de Madrid, hein, 200 km de Madrid,
oui,
250
km. Oui, c'est pas vraiment la banlieue.
Oui, non, pas vraiment. Mais disons, on peut atterrir à Madrid.
On est dans ce qu'on appelle la Meseta, qui est un plateau qui se trouve au nord-ouest de Madrid, parce que Salamanque est une ville qui se trouve à 800 mètres d'altitude et Ségovie à peu près à 1000 mètres. Ce sont deux villes.
Castille et León.
C'est ça, ce sont deux villes absolument extraordinaires, pas forcément les plus connues, mais ce sont deux décors de cinéma, deux décors de théâtre, deux villes incroyables. Salamanque, c'est la plus vieille université espagnole et une des plus vieilles universités d'Europe. Et quand vous êtes à Salamanque et que vous vous baladez dans les rues, qui sont là pavées, c'est comme quand tu es à Oxford ou à Cambridge, tu ne fais pas faire deux pas sans te heurter un témoignage du passé. Il y a des monuments absolument partout. Dès que tu lèves les yeux, tu vois des campaniles, des clochers, des cathédrales. Donc c'est des décors du nom de la rose, des choses comme ça. Et c'est ce qui m'intéressait. Et à côté de ça, tu fais un kilomètre à pied, parce que tout se fait à pied à Salamanque. Tu fais un kilomètre en dehors de cette vieille ville et tout d'un coup, tu as les bâtiments ultramodernes de l'université. Tu as la faculté de droit, la faculté des sciences, etc. Et la faculté de droit, c'est là où se trouve, dans le roman, un groupe d'étudiants en criminologie avec leurs professeurs qui ont leur bureau dans les sous-sols de la faculté de droit. Et ce groupe existe, je ne l'ai pas inventé. Je me suis rendu à Salamanque, je les ai rencontrés. J'ai rencontré leurs professeurs, j'ai visité leur bureau en sous-sol. Alors après, moi, je suis un auteur, donc je fais tout un travail d'imagination par-dessus. Moi, ils découvrent, en fait, ce groupe d'étudiants et ce professeur sont les premiers à repérer l'existence d'un tueur monstrueux passé sous les radars pendant des décennies, à relier entre eux des faits jusqu'alors isolés. Il est évident que les vrais étudiants du groupe de criminologie de la faculté de droit de l'UFC Salamanque n'ont pas le temps de chasser les tueurs en saisie. Ils ont des doctorats à obtenir, c'est tous des doctorants. Ils sont assez occupés par leurs études comme ça.
Lucia, finalement, vous a permis d'entrer réellement, Bernard Minier, dans cette université historique de Salamanque et même là où les touristes, parce que tout le monde peut la visiter. Après, je suis sûr que le nombre de visiteurs va augmenter. Hein. Et de lecteurs-visiteurs va augmenter à l'université de Salamanque, parce que c'est vraiment exceptionnel. Et vous, vous avez pu entrer dans le Saint-Dessin. Moi, j'ai vu la porte ouverte, c'est une porte coffre-fort, hein, dans le Saint-Dessin, où se trouvent les ouvrages les plus précieux.
Oui, mais alors, il y a deux bibliothèques. Il y en a une qui est citée dans le livre, mais il y a deux bibliothèques. L'une est la bibliothèque Francisco de Vitoria de la faculté de droit, qui est une bibliothèque, un bâtiment moderne, un espèce de grand paquebot avec 200 000 ouvrages, mais qui contient dans ses entrailles, dans le sous-sol, une réserve où sont les volumes les plus précieux, qui sont uniquement accessibles aux professeurs et aux étudiants de troisième cycle. Et c'est des grandes armoires pleines de livres montées sur des rails qu'on connaît, qu'on déplace avec des volants. Et c'est dans cette réserve, ces entrailles, que Lucia et le groupe d'étudiants vont trouver un trésor, c'est-à-dire un livre qui va leur permettre de faire avancer l'enquête. Et puis, il y a une autre bibliothèque beaucoup plus ancienne qui se trouve dans le bâtiment historique de l'université, ce qu'on appelle les écoles majeures, où il y a un cloître qui date de la Renaissance et du gothique. Et cette bibliothèque-là, le public n'a pas droit d'y entrer. Il y a juste une cage en verre à l'entrée où les gens peuvent s'avancer par deux ou par trois et jeter un coup d'œil. Elle contient des milliers de manuscrits et d'incunables et aussi 60 000 ouvrages imprimés entre le 16e et le 18e siècle. Et j'ai eu la chance d'être accueilli, de pouvoir visiter ça et de pouvoir visiter la chambre forte qui est un endroit encore plus difficile d'accès. Plus réservé, où là, on a vraiment les manuscrits les plus anciens. On a une Torah très, très vieille. Je ne veux pas dire de bêtises sur le siècle. On a plein de choses comme ça. Donc, c'est un endroit incroyable.
C'est pas la Jet Set dont vous parliez tout à l'heure, mais c'est quand même pas mal d'avoir pu.
C'est extraordinaire. Ouais. Mais quand on a, avec mon ami, on a contacté le professeur de criminologie et le conservateur de la bibliothèque, ces gens-là ne me connaissaient pas. Je suis en Espagne, je suis traduit, mais malgré tout, ils m'ont ouvert leurs portes. Ils m'ont accueilli, ils m'ont montré tout ça, c'était assez formidable. Et j'y suis retourné cette année, donc presque un an après, pas tout à fait, avec des journalistes. Et là, la nouvelle s'était répandue. En fait, ils ont dû se renseigner un peu. Et là, pour le coup, on avait, alors que la première fois, pas du tout, on avait le recteur de l'université qui est venu faire un discours. On a le consul qui s'est déplacé, qui est venu faire un discours. Enfin, on a eu droit à une palanquée de discours. En plus, surtout, moi, j'avais pas de temps à perdre. Je voulais montrer tout aux journalistes. Et pas un temps, on se tapait discours sur discours. C'est tout juste si on n'avait pas la fanfare municipale.
Who are you? Help me get out of here, Hedwig.
You trying to trick me? I'll tell on you.
Aren't you the clever one?
An individual with multiple personalities can change their body chemistry with their thoughts.
Someone's coming for you.
Who's coming?
The beast.
There's a man here. He abducted us and he's going to kill me. We're meant for something. Something horrible.
The world will understand now. The beast is real.
He's done awful things to people and he'll do awful things to you.
Pour dire ce qui a nourri aussi l'écriture de Lucia, c'est que vous avez travaillé, Bernard Minier, sur les TDI, sur les troubles dissociatifs de l'identité.
Oui, ce qu'on appelait troubles personnalité multiple, dont le plus connu est évidemment Milly Mulligan. Hein, c'est où, pour ceux qui connaissent le film Split, c'est que mais c'était très amusant à faire, ça c'est plutôt rigolo.
Du coup, vous apprenez aussi quand.
C'est ce qui moi, en fait, ce que j'aime faire. Quand j'écris, c'est découvrir des domaines que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Si c'est pour parler des douanes que je connais par cœur, parce que j'y étais pendant 25 ans, j'ai rien contre les douanes. Hein, mais moi, j'aime bien aller à la découverte de choses que je. Par exemple, pour M. Le Bord de l'Abîme, moi, l'intelligence artificielle, j'y connaissais absolument rien. Mais tout le monde en parlait, c'était il y a 3-4 ans, on ne parlait que de ça. Et j'ai eu envie de voir par moi-même ce que ce terme-là recouvrait, ce que ça cachait. Et donc, je me suis documenté, et après, je partage ça avec mes lecteurs. Et c'est ce que j'adore faire, Salamanque, c'est une ville que je ne connaissais pas du tout. Donc, je me suis rendu là-bas. Je savais déjà que c'était une ville absolument magnifique, que la Plaza Mayor était une des plus belles d'Espagne.
C'est une grosse ville étudiante.
C'était une grosse ville étudiante, et c'était une des plus vieilles universités d'Europe. Je savais tout ça. Mais néanmoins, je ne connaissais pas vraiment. Donc, moi, c'est mon plaisir, c'est de me rendre sur place de découvrir le travail que font ces étudiants, de découvrir comment ça fonctionne, de visiter cette ville et ensuite, pas de partager tout ça avec mes lecteurs parce que ce n'est pas un guide touristique, mais de garder quelques détails, quelques informations qui vont me servir pour mon histoire.
Ça vous aurait moins intéressé de faire Lucie, simplement une histoire mais, qui aurait pu se dérouler à Toulouse, par exemple, et, oui, mais, en changeant de personnage, mais qui devenait...
Oui, mais justement, j'avais pas envie de... On a déjà Martin à Toulouse, on n'avait pas retourné à Toulouse. Ouais. Donc j'avais envie... Et puis, il faut vous dire aussi une chose, c'est que ma mère est née en Espagne. Elle est arrivée en France à l'âge de 8 ans. Elle est née dans au Aragon, le nord de l'Espagne, les contreforts des Pyrénées, où se passe une partie de Lucia, d'ailleurs, hein, puisque ensuite, on va retourner, comme toujours dans mes romans, dans les Pyrénées, l'hiver, mais les Pyrénées côté espagnol.
Et un jour, peut-être, Lucia et Martin seront appelés à coopérer. Qui sait ?
On verra.
Mais l'auteur ne le sait peut-être pas encore.
Chaque chose en son temps, non, en effet. Ouais.
Si vous deviez dire en quoi votre écriture a évolué depuis Glacé jusqu'à Lucia, si pensez-vous être un meilleur auteur au dixième qu'au premier ou...
J'espère, oui, parce que sinon, c'est un peu... Je ne sais pas, moi, quand je relis Glacé, je trouve ça pas si mal, finalement. Pour un premier roman, mince, ça aurait pu être pire. Non, mais je sais que le Sunday Times l'a quand même classé Glacé dans les 100 meilleurs romans policiers depuis 1945, ce qui est quand même gigantesque. Je ne sais pas si je me suis amélioré ou pas. J'ai resserré sans doute. Je suis un peu moins. Voilà, mais je sais que Glacé faisait 1 million de signes, ce qui est beaucoup quand même pour un roman policier. Et quand j'ai Bernard Fixeau, mon éditeur, quand le livre a marché, a eu du succès, pas le même succès qu'aujourd'hui, mais enfin il a eu quand même un beau succès. Et donc mon éditeur m'avait dit, écoute, si tu fais 100 pages de moins, on aura 50 000 lecteurs de plus. Et je suis arrivé avec Le Cercle qui faisait 100 pages de plus. Donc il était un peu contrarié. Et Le Cercle fait 1 200 000 signes. Aujourd'hui, La Chasse, Lucia, tout ça, c'est entre 400 000 et 500 000 signes. Donc on est... voilà, j'ai sans doute resserré. C'est peut-être parce que, comme Fred Vargas disait, dans les 3 premiers romans qu'on écrit, on veut tout jeter, on veut tout mettre. En fait, on commence vraiment à écrire à partir du 4e. C'est-à-dire une fois qu'on a montré ses muscles, on a montré ce qu'on était capable de faire, là on commence. Peut-être pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu moins long.
Bravo et merci.
Thierry Georges.
Nous allons passer aux questions. Nous avons une première question et la personne ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Et c'est un jeune auteur qui n'est pas dans la région et qui souhaitait intervenir et vous poser la première question, Bernard Minier. Nous l'écoutons.
Bonjour Monsieur Minier. Voilà, je suis très intimidé parce que j'ai une question à vous poser et je suis un jeune auteur de romans policiers. J'aimerais un jour connaître votre succès. Je vous ai envoyé plusieurs manuscrits, mais vous n'avez jamais répondu. Alors je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
Norek sort de ce
corps. J'ai pas Internet, j'ai pas la télévision, j'habite pas en France, donc je ne sais pas si vous les avez reçus. Le premier s'appelait Glacé, puis après je vous ai envoyé un roman qui s'appelle Le Cercle, puis N'éteins pas la lumière. Nuit, sœur, après je vous envoyais La Vallée, je vous envoyais La Chasse, je vous envoyais Une putain d'histoire, je vous envoyais M, Le bord de l'abîme, et il y a un peu moins d'un an, je vous envoyais mon roman qui s'appelle Lucia, et je voulais savoir déjà si vous les avez reçus, et puis aussi si un jour vous accepterez de prendre le temps pour me dire si vous les avez appréciés ou pas. Voilà, je vous souhaite tout le succès possible et imaginable, vous êtes une personne formidable, et je me permets de vous embrasser bien fort.
Vous aurez reconnu Olivier Norek, évidemment,
qui était dans cette salle l'année dernière.
D'accord. Ouais, ben voilà.
Et d'ailleurs, mais je pense que c'est à propos d'Olivier Norek, vous avez une anecdote. Dans un salon littéraire, et Olivier, je crois que c'était Olivier Norek qui était assis forcément à côté d'un autre auteur. Et cet autre auteur lui demande « qu'est-ce que tu fais ?»
Oui, c'est, on ne va pas dire le nom de l'autre auteur, ce n'est pas très honorable.
Mais je suis sûr, écoutez, c'est un ancien. Nous, à Metz, on peut donner des noms des auteurs anciens. Ouais, ouais.
Donc en fait, oui, c'est Olivier Norek qui était... Olivier, au début, je crois qu'il avait publié un livre ou deux, je ne sais plus. Et donc, il avait un auteur de littérature blanche, un auteur primé, un auteur distingué à côté de lui. Olivier lui dit un peu candidement, moi j'écris des romans policiers, etc., parce qu'ils se présentent, ils font connaître. J'écris des romans policiers, et toi, tu fais quoi? Et l'auteur en question lui répond, moi j'écris de la littérature.
Ouais, c'est une belle histoire. Alors, il s'appelle Eric Reinhardt.
Ah ben voilà.
Cet auteur nancéen.
C'est dit.
Merci d'être venu pour ce grand entretien avec Bernard Minier. Que vous applaudissez.
Merci, merci.
Bravo et merci Bernard Minier, dont les romans sont publiés chez XO Éditions. Merci Olivier Norek pour l'amicale question. Merci l'équipe du festival Le Livre à Metz pour la captation de cette rencontre en public à l'Arsenal. Réalisation Romane Feocchio.
Respect et chapeau.